Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La presse et le nouvelliste. Au programme, lecture à l'école, prescrire et non proscrire. Parler du suicide au lieu de censurer. On pète de moins en moins aux frettes. Et plaidoyer pour le droit à l'éducation en Haïti. Bonne écoute.
Lecture à l'école, prescrire et non proscrire. Un texte de Virginie Dosti-Toupin, paru le 18 février 2023 dans La Presse. La censure a fait surface deux fois plutôt qu'une dans l'actualité québécoise récente. Nous devons la première mise à l'index à une santé publique inquiète du mimétisme que peut susciter l'apologie du suicide. Aussi bien intentionnée soit-elle, l'intervention du ministère de la Santé s'est vue décriée par de nombreux commentateurs. Le second cas résulte, quant à lui, du plus récent épisode des « Culture Wars » américaines. Chez nos voisins du Sud, la politisation de tout et de rien se poursuit. La lecture n'y échappe pas. C'est ainsi qu'un album jeunesse québécois s'est vu banni dans un excès de zèle unanimement condamné par l'Assemblée nationale. Peu importe les motifs qui la justifient, la censure provoque un désaveu réflexe quasi général. Et pour cause. Après tout, elle s'attaque à la valeur fondamentale que constitue la liberté. C'est pourquoi la croisade qui s'opère au cœur de la « Land of the Free » nous a tant stupéfiés. Réprouvons fermement la censure. Toutefois, nous aurions tort de balayer ces controverses sous le tapis sans amorcer une réflexion plus large quant à ce que nos jeunes lisent. Bien que nous ne partagions pas le puritanisme américain à la base de cette nouvelle censure, une majorité de Québécois s'accordera sans doute avec les Américains pour veiller à la décence du contenu proposé aux enfants. En outre, l'omniprésence du thème de la quête identitaire mérite notre attention. Quiconque arpente les rayons nouveautés des ailes jeunesse remarquera l'ubiquité notoire de l'identité sous toutes ses coutures. Certes, le sujet est important. Cela dit, il y aurait lieu de se demander si la fascination pour l'individu et le ton un brin moralisateur ne nuisent pas au développement de la curiosité et de l'émerveillement d'une génération de lecteurs. Force est d'admettre que la magie semble parfois troquer contre l'activisme. De son côté, la littérature destinée aux adolescents met souvent l'accent sur des sujets lourds et malsains, comme s'il fallait absolument se coller sur la version sombre de leur réalité pour les intéresser. Lecture et plaisir. Enfin, il serait opportun de contester le précepte selon lequel lire rime toujours avec plaisir, ainsi que son corollaire « tous les livres se valent ». En réalité, la lecture constitue le labeur primordial de l'élève, la pierre angulaire de l'apprentissage. Dans « Se distraire à en mourir », Neil Postman conclut d'ailleurs que la crainte d'Huxley, qui redoutait que « plus personne n'aurait envie de lire » et que « les gens en viendraient à adorer les technologies qui détruisent leur capacité de penser » et les dépossèdent de leur autonomie et de leur histoire, se révèle plus visionnaire que celle d'Orwell qui appréhendait la censure totalitaire. Alors que la capacité d'attention, les aptitudes de lecture profonde, la maîtrise du français et la transmission culturelle connaissent un déclin alarmant, il importe d'agir. Comme l'affirme Maxime Pedneau-Jobin, au lieu de donner aux enfants et aux ados ce qui les attire, l'école doit leur faire aimer ce dont ils ont besoin, une culture propre à eux. Espérons que les enseignants garderont cet impératif en tête lorsqu'ils choisiront des livres grâce aux 300 $ promis. Espérons aussi que les parents offriront leur soutien essentiel au succès de cette mission commune. Par ailleurs, nous devrions remettre au premier plan l'idée maintes fois évoquée d'une liste de prescriptions littéraires classiques. Et si des boucliers devaient se lever en vertu d'un cursus trop chargé, pourquoi ne pas imposer ces lectures lors du congé estival, à l'instar d'autres nations? Permettez-moi, pour conclure, d'anticiper une critique facile en attirant l'attention sur l'effet golem qui se résume ainsi. De faibles attentes conduisent insidieusement à des résultats médiocres. Élevons nos attentes envers notre jeunesse. Les résultats suivront. C'était Lecture à l'école, prescrire et non proscrire, un texte de Virginie Dosti-Toupin, paru le 18 février 2023 dans La Presse.
Parler du suicide au lieu de censurer. Un texte de Robert Whitley, paru le 5 janvier 2023 dans La Presse. Robert Whitley est professeur agrégé au département de psychiatrie de l'Université McGill et chercheur au Centre de recherche Douglas. De nombreux médias ont rapporté la nouvelle selon laquelle le ministère de la Santé du Québec demande aux enseignants et aux bibliothécaires de ne pas recommander ou même de ne pas parler aux élèves du roman de François Blais, « Le garçon aux pieds à l'envers », les chroniques de Saint-Sever. Cette recommandation repose sur la conviction que la lecture de ce roman peut susciter des comportements suicidaires chez les élèves. Cependant, il est important de noter que de nombreuses œuvres classiques de la littérature mondiale comportent un suicide. Par exemple, Madame Bovary, Roméo et Juliette et Anna Karénine, pour n'en citer que quelques-uns. L'exposition au suicide chez les étudiants qui consultent des œuvres littéraires n'est pas un phénomène nouveau. En fait, plusieurs études scientifiques ont examiné les suicides par imitation après exposition à un suicide fictif. Un récent article de synthèse a conclu que les résultats suggèrent que les données actuelles ne soutiennent pas la théorie de la contagion du suicide par les médias fictifs. Un autre article de synthèse a constaté un taux légèrement plus élevé de suicide par imitation après un suicide fictif. Ces deux articles notent que les études existantes présentent de nombreuses faiblesses méthodologiques et qu'elles se concentrent presque toutes sur les suicides fictifs au cinéma ou à la télévision, plutôt que dans la littérature. En ce qui concerne la littérature, un article séminal a conclu « Il n'existe pratiquement aucune analyse systématique des effets d'imitation du suicide dans la littérature sur le suicide. » En tant que tel, il semble que les preuves soient insuffisantes pour faire des déclarations concluantes sur l'exposition au suicide dans la littérature et le suicide par imitation. En effet, il se peut que les orientations du ministère de la Santé soient fondées sur une croyance bien intentionnée, mais erronée, selon laquelle le simple fait de parler du suicide encourage le comportement suicidaire chez les autres. En fait, plusieurs études ont réfuté cette croyance désuète, des recherches récentes indiquant qu'une discussion ouverte peut effectivement réduire le nombre de suicides. C'est particulièrement le cas si cette discussion est axée sur des messages d'espoir, de résilience face à l'adversité, de rétablissement de la maladie mentale, de maîtrise des crises et d'informations sur les ressources de prévention. Cela soulève une question plus large qui doit être discutée. La société et ses institutions doivent parler davantage du suicide et, surtout, de sa prévention. Aucune question de santé publique n'est résolue par le silence, mais de nombreux intervenants préfèrent encore ignorer la question du suicide. Peut-être que le livre de M. Blais ouvre une fenêtre d'opportunité pour le ministère de la Santé et les centres de services scolaires de réévaluer leur approche globale de la question du suicide, et en particulier de penser à la prévention du suicide et au programme de promotion de la santé mentale. Une chose que nous savons, c'est que les jeunes discuteront probablement intensément du livre de M. Blais parmi leurs pairs sur les réseaux sociaux et en personne. Nous avons vu ce phénomène après 13 Reasons Why. Ainsi, il est d'une importance vitale que des enseignants et des experts expérimentés et responsables discutent du suicide et de prévention du suicide dans les établissements d'enseignement de manière solidaire et bienveillante, en axant la discussion sur un contenu porteur d'espoir et axé sur leur établissement qui a été lié à une réduction des suicides. Au lieu d'être une menace pour la santé publique, le livre de M. Blais peut ouvrir des discussions très nécessaires sur un sujet longtemps considéré comme tabou par les enseignants, les éducateurs et la société dans son ensemble. C'était « Parler du suicide au lieu de censurer », un texte de Robert Whitley, paru le 5 janvier 2023 dans la presse. On pète de moins en moins aux frettes. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 21 janvier 2023 dans la presse. Parmi tous les 10 spécialistes du climat québécois qui en mettent plein la vue aux immigrants sur les rigueurs de l'hiver, mes préférés restent ceux qui racontent des histoires du genre « Quand j'étais petit, les bancs de neige étaient pas mal plus hauts qu'aujourd'hui ». Une fois, j'ai rencontré un chauffeur de taxi en Gaspésie à qui j'ai remis sous le nez ce que je considérais comme une mystification à mon intelligence. C'était au milieu des années 1990, alors que je continuais mon très long apprentissage de la nordicité. J'ai appris à la dure, entre Gaspé et Rimouski, qu'avoir quelques hivers à son actif est nécessaire pour saisir la grande différence entre se geler le cul et péter aux frettes. Cette dernière est ma particularité lexicale québécoise préférée. Pendant que dans le reste de la francophonie, on meurt, on décède, on trépasse, on crève ou on casse sa pipe, les Québécois sont arrivés avec cette parlure imagée et poétique qui permet de mieux visualiser la rigidité cadavérique. Péter aux frettes. Je dois avouer que la première fois que j'ai entendu cette expression, c'est la piste du bûcheron dans sa bécosse en plein mois de janvier, après un copieux repas de soupe au pois qui s'est présenté à moi. Quand on commence à être gelé comme une crotte, mieux se chauffer au gaz pour ne pas péter aux frettes, qui signifie se les geler ou tomber raide mort. À ne pas confondre avec tomber mort raide. Si tomber raide mort, c'est la vie qui va, tomber mort raide, c'est le Viagra. Je reviens à mon histoire, ma rencontre hivernale gaspésienne avec ce chauffeur de taxi. Quand je suis monté dans sa voiture, malgré le fait que Boukhar était black et arborait une tuque africaine multicolore, il a quand même trouvé le moyen de me lancer. « Tu n'as pas l'air d'un petit gars d'ici, toi. »« Ah bon? Ça se voit tant que ça? Tu viens-tu d'ici? » »« Non, monsieur. » »« Trouves-tu qu'il fait frette au Québec? » »« Oui, monsieur. » Estime-toi chanceux, mon homme. Quand j'étais petit, les bancs de neige étaient pas mal plus hauts qu'aujourd'hui. La semaine suivante, je suis encore tombé sur le même taxi et, croyez-le ou non, monsieur semblait ne pas me reconnaître. Il me dit « Tu viens-tu d'ici? » « Non, monsieur. Trouves-tu qu'il fait fret au Québec? » « Oui, monsieur. Estime-toi chanceux, mon homme. Quand j'étais petit, les bancs de neige étaient pas mal plus hauts qu'aujourd'hui. » Quant à notre troisième rencontre, j'ai mis le pied dans son taxi. C'est moi qui ai entamé la discussion. « Trouves-tu qu'il fait fret, le Gaspésien? » « Oh que oui, mon homme. Estime-toi chanceux. Moi, quand j'étais petit, les bancs de neige touchaient les fils électriques. » Complètement surpris, le taximan a ralenti, s'est retourné vers moi et m'a dit en souriant « Oh ben tabarne, tu viens vraiment d'ici, toi? » Pourtant, loin d'être un indigène, je voulais simplement lui indiquer que je connaissais un tout petit peu la théorie de la relativité. Quand on est petit enfant, les bancs de neige peuvent paraître très hauts assez vite, mais en grandissant, ce qui nous semblait géant devient miraculeusement moins impressionnant. Je racontais souvent cette anecdote un peu romancée dans un spectacle précédent et ça faisait réagir. Des spectateurs convaincus que j'étais dans le champ m'envoyaient des photos de bancs de neige de leur jeunesse pour me prouver que ce n'est pas juste une question de relativité. Force est d'admettre aujourd'hui qu'il se passe quelque chose d'anormal. On n'a assurément plus les hivers qu'on avait, disent aussi les scientifiques. Les données provenant des stations météorologiques prouvent que les hivers sont moins froids et plus courts. Oui, il y a de rares exceptions à la règle, mais la tendance reste scientifiquement indéniable. Ce sont les conclusions du réseau interdisciplinaire Ouranos, qui regroupe quelques centaines de chercheurs, experts et autres acteurs qui s'intéressent à la climatologie et au changement climatique. Autrement, le fameux « on n'a plus les hivers qu'on avait » n'est pas le seul fait d'esprit nostalgique ou porté à l'exagération. Cette affirmation mérite d'être considérée, car elle repose sur un constat bien fondé. Si cette tendance au réchauffement se poursuit, nous n'aurons bientôt plus la joie de péter aux frettes ou de se péter la gueule sur les trottoirs mal déglacés de Montréal. Chez nous, les gens qui ont vu longtemps neiger ont aussi des choses à dire sur les bouleversements climatiques. Ils représentent des références vivantes qui méritent d'être entendues et leur verdict semble unanime sur le sujet. On n'a plus les hivers qu'on avait et les bancs de neige sont assurément de moins en moins impressionnants. Même la ceinture fléchée sixième dame que je suis devenue, gracieuseté de 32 hivers dans le corps, commence à chanter qu'on n'a plus l'hiver qu'on avait. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'on y pète de moins en moins aux frettes que le Québec deviendra un paradis où tout le monde pète le feu. C'était « On pète de moins en moins aux frettes », un texte de Boucar Diouf, paru le 21 janvier 2023 dans la presse.
Plaidoyer pour le droit à l'éducation en Haïti, un texte d'opinion d'Annick Chalifour, paru le 17 décembre 2022 dans le Nouvelliste. L'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae, est récemment rentré d'une mission diplomatique à Port-au-Prince dans le but de se pencher sur la question sécuritaire en Haïti et tenter de tracer la voie vers des élections plus d'un an après l'assassinat du président, en juillet 2021. Outre l'envoi de matériel du Canada pour renforcer les capacités de la police nationale haïtienne et de sanctions à l'égard d'élites haïtiennes, aucun plan d'action concret n'a encore été évoqué, visant spécifiquement la mise en œuvre d'élections démocratiques requises en Haïti. Entre-temps, malgré l'insécurité chronique, la précarité économique aggravée, des directeurs d'école, professeurs et parents, partout en Haïti, se réunissent pour étudier la possibilité de rouvrir les écoles. Après avoir essayé en vain plusieurs fois la réouverture des classes, certaines écoles se lancent très timidement dans certains endroits moins rouges, considérés moins à risque. Voici le poignant témoignage d'un directeur d'école basé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, partenaire de l'organisme torontois Perspective Entraide Humanitaire, engagé dans l'appui à l'éducation en Haïti depuis sa fondation en 2002. Notre interlocuteur partage son point de vue dans l'anonymat pour des raisons de sécurité. Appauvri par l'insécurité. La crise sociopolitique secouant Haïti, particulièrement aggravée depuis ces derniers mois, détruit la faible économie haïtienne. Les principaux acteurs de la classe moyenne ferment leurs entreprises pour éviter qu'ils soient totalement appauvris par l'insécurité, notamment par le kidnapping. Les autres vendent leurs biens pour se rendre à l'étranger. Les uns doivent faire des efforts et accepter des humiliations, en particulier en République dominicaine, tentant de commencer une sorte de nouvelle vie sous les menaces d'expulsion des autorités dominicaines. Malgré les hauts risques de mort, beaucoup de pauvres traversent des zones de non-droit pour amener leurs enfants dans des villes de province ou à la campagne. Contexte de misère. Certains se font violer, piller, humilier. Ils arrivent dénudés chez des parents qui déjà triment dans la misère. D'autres échouent. Généralement, ceux qui restent, survivant dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et plusieurs autres villes à risque, n'ont quasiment rien. C'est dans ce contexte économique que les écoles essaient de rouvrir leurs portes. Les premières conséquences sont déjà graves. Conflits entre les parents n'ayant pas d'argent pour les frais de scolarité de leurs enfants et les directeurs qui ne sont pas en mesure d'accueillir les élèves ni payer les professeurs. Incapacité des élèves de suivre des cours car ils n'ont pas de nourriture ni de matériel scolaire, ni de moyens pour payer le transport. Terrorisme interne. Les bandits continuent à étendre leur territoire, tuent et brûlent des gens, kidnappent, volent des véhicules, des marchandises, font des concerts de tirs nourris avec des armes de guerre, ce qui a des impacts négatifs sur la réouverture des classes. Les élèves, les professeurs et les parents sont traumatisés. Dans certaines zones, on entend des tirs chaque jour faisant peur aux gens. Des bandits rançonnent des directeurs. Des directeurs d'école reçoivent des lettres de menaces ou taxes à payer. Les écoles sont prises en sandwich, d'une part menacées par le phénomène de l'insécurité généralisée et d'autre part utilisés par les leaders politiques pour faire passer leurs revendications. Tout cela crée une psychose de peur qui perturbe le processus de réouverture des classes. Précarité économique. La situation des familles vivant au sein des bidonvilles, créées aux alentours de Port-au-Prince à la suite du tremblement de terre de janvier 2010, est particulièrement alarmante. Ces gens ayant tout reçu de la part d'organisations non gouvernementales, ONG à l'époque, doivent encore de multiples frais de scolarité. On les garde quand même, l'objectif général étant de permettre aux enfants pauvres d'avoir accès à une éducation de qualité. Mais aujourd'hui, la situation empire. L'aide des ONG n'existe plus, alors que les gens restent avec la même mentalité de dépendance. Ce problème continue de susciter de grandes discussions entre les parents qui n'ont pas d'argent, les professeurs qui souffrent depuis des mois, les responsables ne recevant rien des parents, ne pouvant pas aider les professeurs à reprendre le travail ni à recevoir leur salaire mensuel. Transport public à haut risque. Une station d'autobus, sise à côté d'un sous-commissariat de police, est devenue la pire localisation pour se véhiculer vers certaines écoles situées dans la région de Port-au-Prince. Cette station est aujourd'hui la proie des bandits volant des camions de marchandises. Le sous-commissariat représente leur ennemi et cible d'attaque. Quand les bandits volent un camion, ils lancent plusieurs projectiles pour faire déguerpir les gens qui occupent les rues. La police tire aussi pour les repousser. Cette pluie de tirs incessants terrorise tout le monde. Les parents, les professeurs, les élèves sont traumatisés. Ils ont peur de se rendre aux écoles de la zone en raison de leur situation géographique. Sécurité, finances, soutien psychosocial. Pour rouvrir les portes des écoles, une aide au niveau de la sécurité, de la finance et de l'accompagnement psychologique se révèle essentielle. Les directeurs d'école des zones défavorisées de Port-au-Prince ont récemment envoyé une pétition au ministre de l'Éducation pour demander un soutien. Aucune réponse à date. Cette lettre est sûrement dans un tiroir ou dans la poubelle, selon notre interlocuteur. Ce gouvernement a tellement d'autres priorités. C'était Plaidoyer pour le droit à l'éducation en Haïti, un texte d'opinion d'Annick Chalifour, paru le 17 décembre 2022 dans Le Nouvelliste.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion, Robert Chartier, Hélène Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.